Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous avons ce matin notre prédication sur le thème de l'année. Jean 13, verset 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est là le thème qui nous conduit tout au long de cette année, et chaque mois nous avons une prédication sur ce thème. Nous déclinons ce thème en différents aspects pratiques, et ce matin nous allons faire une lecture dans Éphésiens chapitre 4, et nous allons lire simplement les trois premiers versets. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Peut-être dans la traduction que vous avez sous les yeux au verset 1, c'est le verbe marcher, hein, ou vous comporter. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, c'est-à-dire à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. J'aimerais tirer avec vous un petit peu ce fil de cette métaphore, de cette image de la marche, et de regarder en trois temps cet encouragement de Paul. Le message est clair et simple ici. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher ou nous comporter d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Question: quel est cet appel? Puisqu'on est censé se comporter dignement par rapport à cet appel, quel est cet appel? Ce sera le premier temps. Deuxième temps, qu'est-ce que c'est un comportement digne de l'appel reçu? Troisièmement, quels sont les ingrédients d'un comportement réussi? Qu'est-ce qu'il nous faut pour marcher d'une manière digne? Première question donc, qu'est-ce que c'est l'appel? Et là, pour ça, j'aimerais utiliser l'image de la carte ou du GPS. Alors, je n'ai pas amené un GPS, puis les GPS, ça tombe en panne. Ça ne nous amène pas toujours à bon port. Alors, j'ai pris une carte. Une bonne vieille carte. Ça marche encore. La carte, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est les trois premiers chapitres. On ne va pas les lire ce matin, je vous invite à les relire à la maison. Paul dit dans le texte qui nous concerne, « Je vous encourage donc. » Vous voyez ce mot « donc » qui fait le lien entre ce que Paul a dit dans Éphésiens 1, 2 et 3 et ce qu'il dit ensuite dans Éphésiens 4, 5 et 6. C'est un peu comme dans l'épître aux Romains. On a d'abord la partie un peu théorique, Romains chapitre 1 à 11, et puis dans les versets 12 et suivants, la partie pratique. Et bien là, on a un peu la même chose. Éphésiens 1 à 3, Paul parle de l'appel que nous avons reçu, et dans les chapitres 4, 5, 6, il décrit comment mettre en pratique cet appel que nous avons reçu. Prenons quelques exemples dans le chapitre 1 d'Éphésiens. Par exemple, chapitre 1, versets 13 et 14. Paul dit, « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, l'évangile, en lui, en Jésus-Christ, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les prémices de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. C'est une phrase un peu compliquée, n'est-ce pas ? Mais en fait, c'est tout simple. Paul est en train de dire, vous avez entendu l'évangile, par la foi vous avez dit, oui c'est vrai, je crois que Jésus est mon sauveur. Et en disant oui à Dieu, vous avez reçu un héritage. Vous avez répondu oui à l'appel de Dieu, et en répondant oui, vous entrez dans son royaume, vous entrez dans son peuple. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce que Paul est en train de s'adresser à des gens qui ne sont pas d'origine juive. Des gens qui n'avaient pas le droit de faire partie du peuple de Dieu. Et c'est là tout le projet de Dieu, tout le mystère qui a été révélé et dont Paul parle dans ses trois premiers chapitres de la lettre aux Éphésiens. Par exemple, il dit au chapitre 3 et au verset 6, en parlant de ce mystère, c'est-à-dire de ce que Dieu a révélé, il dit que les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Par la bonne nouvelle, l'évangile, dont je suis devenu le serviteur, dit Paul. Voilà ce que Dieu a révélé. Le Messie est venu, et ce n'était pas seulement le Messie pour les Juifs, le Sauveur pour les Juifs. C'était le Sauveur de tous les hommes. Et ça c'est la vérité de l'évangile. Dieu a envoyé son Fils mourir sur une croix, ressusciter, nous allons fêter cela dans quelques jours, n'est-ce pas ? Et ensuite monter au ciel où il règne aujourd'hui, pour dire, voilà le roi. Et c'est le roi de tous ceux qui mettent leur confiance en lui, juifs et non-juifs. Et dans cette lettre aux Éphésiens, Paul dit, voilà quel était le projet de Dieu, de faire cohabiter ensemble, mais plus que ça, de faire héritier des gens qui étaient d'origine juive et des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui ont comme point commun de mettre leur foi en Jésus-Christ pour être sauvés. Et donc, tout le message de cette lettre aux Éphésiens, c'est l'Église est un rassemblement de gens qui ne se sont pas choisis. Vous m'entendez dire ça de temps en temps. Hein? L'Église est un rassemblement de gens qui ne se sont pas choisis. Nous ne sommes pas un club, nous ne sommes pas seulement une association, mais nous sommes appelés à faire partie d'un peuple qui appartient à Dieu. Nous formons un même corps. Vous voyez ces images ? Peuple, corps, temple, unis à Jésus-Christ. Et donc voilà l'illustration de l'appel, la carte ou le GPS. Le chrétien sait d'où il vient, son point de départ, et où il va, son point d'arrivée. Et il suit un itinéraire. C'est ça le cheminement chrétien ou le cheminement spirituel. Nous ne sommes pas en errance. Nous avons un point de départ, nous savons d'où nous venons, nous savons d'où Dieu nous a sortis. De l'esclavage du péché, d'une vie sans Dieu. Et Dieu nous a appelés à sortir de cette vie sans lui pour aller vers une vie avec lui. Point de départ sans Dieu, point d'arrivée avec Dieu. Et entre les deux, on apprend à vivre avec le Seigneur. Le chrétien sait d'où il vient et où il va. On n'a pas forcément tous les détails des étapes et de l'itinéraire, mais on sait quelle est la direction. On sait où on va. Les GPS ont leur défaillance et ne trouvent pas toujours le point d'arrivée, n'est-ce pas ? Et il faut parfois un peu tourner en rond, même avec les nouvelles technologies, même avec les cartes papier. Dieu, lui, est sûr. si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, alors nous savons d'où nous partons et nous savons où nous allons. Et j'aimerais tirer un premier enseignement de cela, puisque Paul nous encourage avec les Éphésiens. Il nous encourage à partir de ce qu'il a dit dans ces trois premiers chapitres. Il nous encourage à deux choses. La première, c'est si nous n'avons pas entendu ou si nous n'avons pas répondu encore à l'appel de Dieu manifesté en Jésus-Christ, si nous n'avons pas la carte ou le GPS, eh bien aujourd'hui, c'est encore le moment de demander à Dieu sa carte, son GPS, son Esprit Saint. Si nous sommes perdus dans la vie, dans une vie sans Dieu, nous pouvons crier à Dieu et lui demander « Donne-moi une nouvelle direction, change ma vie, donne une nouvelle direction à ma vie, donne-moi un point d'arrivée, montre-moi où j'en suis pour que je puisse prendre un nouveau départ. » C'est ce qu'on appelle la conversion. Nous nous rendons compte que nous sommes pécheurs devant Dieu, que nous avons besoin d'être pardonnés. Nous lui demandons pardon, nous recevons son pardon et il nous donne une vie nouvelle avec le Christ. Son esprit vient habiter en nous pour nous conduire. Nous ne sommes pas seuls dans le voyage. Et si nous avons déjà reçu la carte ou le GPS, l'Esprit de Dieu, mais que nous avons peut-être mis cette carte de côté, ou que nous avons brûlé des étapes, ou que nous nous sommes perdus en cours de route, nous pouvons revenir vers le Seigneur, nous rappeler d'où nous venons et où nous allons, comme lorsque nous avons retrouvé la boussole qui nous indique de nouveau où est le nord. Carte, boussole, GPS, les moyens humains sont limités et sont parfois commettent parfois des erreurs, mais Dieu, lui, nous permet d'arriver à bon port. Donc, venons ou revenons vers Dieu, vers Jésus-Christ, si nous sommes perdus, pour retrouver le sens de la marche. Premier point donc, la carte, le GPS, l'itinéraire. Si nous avons la carte et l'itinéraire, alors nous pouvons nous mettre en route ou reprendre notre route pour marcher, c'est-à-dire nous comporter d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu, l'appel de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il nous faut pour marcher maintenant? Nous avons la carte ou le GPS. Il nous faut aussi des chaussures, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, on peut avoir deux types de chaussures aux pieds. Et selon le genre de chaussures qu'on aura, on n'ira pas au même endroit et on n'ira pas aussi loin, n'est-ce pas? Ça, c'est des tongs. Ça, c'est des chaussures de marche. Il y a aussi parfois des moments où on se promène sur le bord de la plage dans la vie chrétienne. Mais si je tire un petit peu le fil de cette image de la marche, et ce que Paul nous dit, c'est que nous sommes rarement en tourisme et plus souvent dans une marche sur le long terme. Parfois en sprint, parfois on se promène au bord de la plage, mais le plus souvent nous marchons et pour marcher nous avons besoin de bonnes chaussures. Et c'est ce que Paul nous dit ici. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Comment ? Paul nous donne deux pistes. C'est ce qu'il dit au verset 2 et au verset 3. Premièrement, en vous supportant les uns les autres. Et c'est le thème de la prédication ce matin. Comment est-ce que nous pouvons nous aimer les uns les autres ? Thème de l'année. Comment est-ce que les autres autour de nous peuvent voir que nous sommes disciples du Christ? Réponse à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ici, ce matin, nous supporter les uns les autres. Vous voyez, ça ne va pas que dans un sens. nous devons nous supporter les uns les autres. Et Paul nous dit comment c'est possible. Nous supporter dans l'amour. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Vous voyez, supporter, ce n'est pas quelque chose de passif ou de résigné ou qu'il faut faire en soupirant. Parce qu'il faut bien supporter les autres, n'est-ce pas? Et on soupire et on traîne des pieds. Si on compare avec le texte parallèle en Colossiens chapitre 3, on voit aussi que supporter, ce n'est pas tout à fait la même chose que pardonner. Nous supportons un certain nombre de choses qui concernent le caractère des autres, leur culture, leurs habitudes. Supporter, ça veut dire se frotter ou se confronter à ces différents traits de caractère ou de culture. Et puis parfois, il y a des choses qui vont un peu plus loin et qui sont de l'ordre du péché. Et là, nous sommes appelés non seulement à supporter, mais aussi à aller voir la personne et à dire « Attention, là tu vas trop loin, tu dépasses une limite. » Et donc, entre supporter et pardonner, il peut y avoir des allers-retours. On a aussi ce beau texte dans 1 Corinthiens chapitre 13, où quelques pages plus tôt, je lis quelques versets, Paul nous dit « L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Ou dans une autre traduction, « Il endure tout. » L'amour chrétien, le vrai amour, supporte les chocs, encaisse les chocs. Et je reviens à l'image des chaussures. Si vous voulez marcher longtemps, si vous voulez marcher en montagne et franchir des cols et des difficultés, il faut avoir des semelles qui encaissent les chocs. C'est là où les tongs de plage ne suffisent pas, n'est-ce pas ? Il faut avoir de bonnes semelles, des chaussures qui maintiennent bien le pied, qui assurent un certain confort. Et c'est ça l'amour. C'est ça qui nous aide à nous supporter les uns les autres, à nous soutenir. La semelle, c'est ce qui soutient le pied, n'est-ce pas ? L'amour supporte tout. L'amour encaisse les chocs dans les relations. Mais ce n'est pas tout. J'ai dit qu'il y avait deux choses. La première, c'est supportez-vous les uns les autres dans l'amour. La deuxième, c'est efforcez-vous de rechercher l'unité par le lien de la paix. Vous voyez comment Paul insiste ? Efforcez-vous de chercher. Efforcez-vous de chercher. Il y a un effort à fournir. S'il y a un effort à fournir, c'est que ce n'est pas naturel. C'est pas naturel parce que nous n'avons pas toujours tendance à arrondir les angles, mais à affirmer notre caractère, à affirmer nos habitudes et à dire aux autres qu'ils doivent se ranger à notre caractère et à nos habitudes. Et nous avons parfois du mal à supporter les autres. Et nous avons parfois du mal à chercher l'unité. Et là encore, Paul nous donne une clé. Nous supporter les uns des autres, comment ? Par l'amour. Nous efforcer de chercher l'unité de l'esprit, comment ? Par le lien de la paix. Et ça, c'est les lacets. Si vous n'avez que des semelles, ou que la chaussure et pas de lacets, vous risquez une entorse. Vous risquez de perdre vos chaussures en cours de route. Alors je sais qu'aujourd'hui, on a tendance à ne pas attacher ses chaussures. Il n'empêche que si on veut marcher un certain temps, et avoir les chaussures qui tiennent aux pieds, il faut avoir des bons lacets qui tiennent. Et c'est ça le lien de la paix. C'est l'image des lacets qui font que la chaussure va tenir aux pieds, que le confort va durer un certain temps. Vous savez, la paix, c'est un signe d'unité dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de tension et jamais de désaccord. Mais c'est quand même ça qui nous lie les uns aux autres. L'amour et la paix. Et les deux marchent ensemble, comme la chaussure et les lacets. Ça forme un tout. L'apôtre Jacques dit dans sa lettre, et nous avons lu ces quelques versets dans notre réunion du conseil la semaine dernière, nous dit, donc Jacques, chapitre 3 et verset 18, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. » Je répète, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. » Est-ce que nous sommes des ouvriers, des artisans de paix? Est-ce que nous nous efforçons de chercher l'unité dans l'Église par le lien de la paix? Cette semaine, vous avez entendu dans les médias l'arrestation de Salah Abdeslam, n'est-ce pas? Terroriste présumé, organisateur, coordinateur logistique des attentats du mois de novembre à Paris. Et on parlait de ça hier, juste avant l'atelier de la foi. Abdeslam, ça veut dire serviteur de la paix. En voilà un qui a raté sa vocation. Lui, il a raté l'appel. Alors, un nom, voilà, c'est... Les parents donnent des noms ou des prénoms, hein, avec un certain désir. Et la question là, c'est cet homme à qui on a donné ce nom, serviteur de la paix, fait autre chose de sa vie. Pensons à cela. On a là l'exemple de quelqu'un qui vit en contradiction avec son nom. Or, nous avons le nom de Jésus-Christ. On l'a chanté tout à l'heure, son nom. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Chrétien, c'est petit Christ. Est-ce que nous portons avec dignité le nom de notre Seigneur? Ou est-ce que nous vivons d'une manière opposée au nom que nous portons? Prions pour que cet homme retrouve le sens de son nom, serviteur de la paix, que Jésus se révèle à lui. Alors, pour marcher, il nous faut une carte, un itinéraire, un point de départ et un point d'arrivée, un appel. Dieu nous demande de répondre à cet appel, oui ou non. Si nous avons répondu oui, alors Dieu nous équipe de chaussures pour marcher. Avec pour semelle l'amour, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et pour lacet, le lien de la paix qui doit nous unir dans nos relations fraternelles. Nous devons être équipés de bonnes chaussures pour marcher longtemps, pas de tongs pour aller à la plage. De la même manière, si nous voulons nous comporter conformément à la volonté de Dieu, nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres et à travailler ensemble à la paix. Et cela demande un effort. Un effort. Et notez que cet effort, cette réponse à l'appel, cette marche avec le Seigneur, peut aller parfois jusqu'à la prison. Vous avez vu ça? Je reviens. Éphésiens 3, Éphésiens 4, par contre, verset 1. « Je vous encourage donc, moi, dit Paul, le prisonnier dans le Seigneur. » Paul, quand il écrit à ses chrétiens d'Éphèse, il a été mis en prison à cause de sa foi. Parce qu'il proclame qu'il a la bonne carte et qu'il a les bonnes chaussures. Et pour ça, on le met en prison. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans cet itinéraire et dans cette marche avec le Seigneur? Est-ce que quand il s'agit de témoigner que nous avons au pied les bonnes chaussures que Dieu nous a données, nous préférons prendre les tongs pour faire comme tout le monde et aller bronzer au soleil? Quelques années plus tard, à cette église d'Éphèse, l'apôtre Jean a écrit une lettre, et nous l'avons étudiée dans nos études bibliques à l'Apocalypse. Et il est reproché à cette église d'Éphèse d'avoir perdu son amour. Son premier amour, son amour premier. L'église d'Éphèse, avec le temps, a échangé ses chaussures de marche contre des tongs. Ils ont oublié de se supporter les uns les autres dans l'amour. N'imitons pas leur exemple. Vous pourrez lire dans Apocalypse au début du chapitre 2. Une carte, des chaussures de marche, troisièmement, un sac à dos. Un sac à dos dans lequel nous avons du matériel pour la route. Et Paul nous donne trois choses à emmener dans notre sac à dos. Il y a trois choses que nous emmenons avec nous. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, avec ou en toute humilité. Donc, avec humilité, douceur et patience. Voilà les trois ingrédients que nous sommes invités à avoir dans notre sac à dos pour marcher longtemps avec le Seigneur et les uns avec les autres. Humilité, douceur et patience. Je disais en introduction que l'Église est un rassemblement de personnes qui ne se sont pas choisies. Nous ne nous sommes pas choisis. Mais il y a quelque chose que nous avons à choisir. C'est la manière dont nous sommes en relation les uns avec les autres. Ça, nous avons des choix à faire. Et Paul nous dit ici, voilà ce que vous avez à choisir qui est bon pour vivre ensemble. La première chose, puisque j'ai mis mon sac, il est là. La première chose, c'est ça. J'aurais pu prendre un sandwich, j'ai pris une banane. Nous avons besoin d'humilité. Ici, c'est un symbole de nourriture. Pourquoi ? Nous avons besoin de manger. Nous sommes dépendants de Dieu. C'est ça l'humilité. C'est se rappeler que nous sommes dépendants de Dieu et nous sommes interdépendants. Nous dépendons les uns des autres. Supportez-vous les uns les autres. Pour marcher longtemps, nous avons besoin de manger. Nous avons besoin d'humilité dans nos relations. Mais nous avons besoin aussi de douceur. J'ai amené des bonbons. Une petite douceur, comme on dit. Petite douceur dans le sac. Et nous avons besoin aussi de patience. J'ai pris le symbole de l'eau. Il faut parfois économiser l'eau pour pouvoir marcher longtemps, être patient dans un voyage qui peut être long. Ce sont des images, elles ont leurs limites. Humilité, douceur, patience. Nous avons besoin de tout cela dans notre sac à dos. Si nous voulons tenir dans notre marche avec le Seigneur et les uns avec les autres, la question nous est posée ce matin par la parole de Dieu. Qu'avons-nous dans notre sac à dos spirituel? Qu'est-ce que nous avons comme matériel pour marcher? Peut-être il y a dans nos cœurs ou dans nos vies en ce moment de l'orgueil, ou du mépris, ou de l'impatience, de la colère, des frustrations, des déceptions. On est peut-être déçu par Dieu, ou peut-être déçu par le comportement d'un frère ou d'une sœur. Et là, Paul nous dit, si vous voulez marcher longtemps, il vous faut non pas de l'orgueil, mais de l'humilité. Non pas du mépris, mais de la douceur. Non pas de l'impatience, mais de la patience. Et là encore, nous avons besoin de revenir à celui qui nous a appelés, qui nous a mis en route. Nous avons besoin d'une carte, l'appel. Nous avons besoin de bonnes chaussures avec de bonnes semelles pour pouvoir nous supporter les uns les autres et de bons lacets pour pouvoir vivre dans l'unité et la paix. Et nous avons besoin des ingrédients que sont l'humilité, la douceur et la patience pour marcher longtemps. Je vous invite à prier. Seigneur, c'est toi qui nous appelles pour vivre avec toi. Seigneur, tu connais nos parcours, nos chemins de vie. Tu connais nos chutes, tu connais nos exploits. Seigneur, appelle-nous encore ce matin pour que nous venions ou que nous revenions à toi. Nous avons besoin que tu nous guides, nous avons besoin que tu nous équipes, nous avons besoin de nous rappeler que nous dépendons de toi et nous dépendons les uns des autres. Travaille notre caractère pour que nous devenions moins égoïstes et plus prêts à nous supporter les uns les autres. Et si nous sommes fatigués par la marche, par le voyage ce matin, nous voulons nous rappeler ces paroles de Jésus lui-même qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Car mon joug est bon et ma charge légère. Seigneur, apprends-nous l'humilité, la douceur, la patience pour que notre sac à dos, notre caractère soit plus léger et plus conforme à ton modèle, Seigneur Jésus. Fais-nous du bien pendant cette semaine et encourage-nous dans notre marche. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Amen.